De retour en direct de l'Open Bidouille Camp pour un deuxième plateau, une deuxième petite table ronde. Alors, petite table ronde, hein, pour le coup, j'ai deux personnes en face de moi. Donc Stéphanie, toi tu viens un petit peu avec la double casquette aujourd'hui, puisque à la fois tu travailles à la régie de quartier et tu es également habitante du quartier, donc de Bacalan. Et à côté de toi, il y a Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Donc vous, vous êtes habitant du quartier également. Donc tous les deux, une première question pour tous les deux. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ?
Aujourd'hui ?
Ouais.
Eh bien, on est venu participer à un événement de quartier parce que c'est un petit peu nos habitudes. Hein. Il se passe plein de choses dans ce quartier, donc on aime bien venir voir ce qui se passe et aller voir de nous-mêmes en fait. Et puis en fait, on a été aussi invité par Julien du garage à passer, donc entre partenaires, on répond.
Et moi, c'est la curiosité en fait. J'en ai entendu parler il y a quelques jours, un petit peu par hasard. Et voilà, Open Bidouille, j'en ai entendu parler comme ça ici ou là, sans trop savoir ce que c'était. Avec une petite idée quand même derrière de ce qu'on peut y faire. Et c'est la curiosité qui m'amène là. J'y passe voir à quoi ça ressemble, parce que je pense qu'il y a des très très bonnes idées pour la suite.
Et vous venez souvent comme ça aux événements du quartier? Parce que Stéphanie, justement, tu disais qu'il y avait pas mal de trucs qui se passaient. Vous êtes un peu au courant de l'actualité, de ce qui se passe?
Alors moi, je suis obligée de dire que je suis au courant. Hein. Je bosse pour le journal de quartier Bacalan, donc je suis effectivement un petit peu au courant de tout ce qui se fait dans ce quartier-là. Là, ça redémarre un petit peu parce qu'évidemment, avec l'année qu'on vient de passer, c'est un peu en stand-by. Donc chaque événement qui est proposé, effectivement, on a tous envie d'être là. Et voilà, c'est un peu un renouveau, du coup, ça fait du bien. Quoi.
Et moi, je suis assez attentif sur ce qui se passe, ouais, sur le quartier, sur la ville en général, mais sur mon quartier en particulier. Et comme il y a plein de trucs tout le temps... On a même du mal à suivre, mais c'est génial parce que moi je découvre des choses tout le temps. Sans être un grand militant, moi à titre personnel je suis dans le collectif de Incroyable Comestible sur la place Buscaillé, mais rien qu'avec ça déjà j'ai des ramifications avec plein de choses qui se passent ici, au plateau, à la régie de quartier, et du coup on s'ennuie pas.
Et c'est aussi l'occasion un petit peu de rencontrer ses voisins, de rencontrer d'autres habitants du quartier. Vous avez fait un petit peu connaissance avec d'autres personnes de votre quartier, du coup, lors de ces événements, notamment ici ou sur d'autres événements du quartier?
Bon, moi, je suis une enfant du quartier, donc je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma scolarité. Du coup, c'est vrai qu'on se connaît tous plus ou moins, c'est quand même un petit village, hein, donc on se connaît, on parle beaucoup les uns avec les autres. Et puis quand on se connaît pas, en tout cas, de visu, déjà, on sait qui est du quartier, qui ne l'est pas. Mais ces événements-là, c'est effectivement l'un des objectifs premiers, c'est ça, c'est le lien social, proposer un temps et un endroit pour que les gens se rencontrent et puissent échanger entre eux. Et on se connaît sans se connaître, et aujourd'hui, on va mieux se connaître grâce à cet événement-là. C'est vraiment le but, je pense, de tous ces événements. Et en tout cas, la volonté des associations du quartier.
Ce qui est intéressant, c'est que le quartier est quand même assez grand. Il y a plusieurs spots, plusieurs, on va dire, des sous-centralités. Moi, j'habite plutôt vers la place Buscaillé, donc naturellement, je suis plutôt là-bas. Et quand il y a un truc à la plateforme de compostage, j'y vais, parce que je sais que je vais rencontrer des gens que je connais, mais il y a d'autres habitants. Et quand je viens ici vers la piscine, je rencontre aussi d'autres personnes. Donc c'est assez intéressant de se balader à différents moments et surtout à différents lieux parce qu'il y a des sous-communautés dans la communauté.
Puis il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui nous présente en fait, et c'est vrai que c'est sympa, quoi.
Alors justement, en préparant tous ces petits plateaux, on a discuté un petit peu avec les organisateurs et ils nous expliquaient que généralement on considère Bacalan pas dans la ville de Bordeaux. On a souvent l'impression, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que finalement Bacalan c'est une ville à part entière, c'est un village à part entière.
Village gaulois.
Voilà, c'est un peu ça, mais que ça fait pas partie de Bordeaux. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou qu'est-ce que vous en pensez vous un peu de ça?
Alors l'entendre, effectivement, on l'a entendu et on l'entend encore. Très personnellement au début ça m'agaçait. Aujourd'hui je me dis tant pis pour eux. Voilà en fait, très sincèrement. Mais moi-même... à la défense quand même, je suis bacalanaise et je dis que je vais à Bordeaux faire mes courses. Hein, donc ça va un petit peu dans l'autre sens aussi, quoi.
Voilà. Historiquement, je pense que c'est vrai. Ça l'est de moins en moins parce que le quartier, malgré tout, se gentrifie et il y a plein de nouveaux habitants. Mais pour la petite histoire, le plan de Bordeaux, moi, il y a une vingtaine d'années, le plan de Bordeaux, comme c'est une ville qui, si vous regardez un plan, qui est plutôt en verticalité, le quartier de Bordeaux-Nord, des fois, il n'était pas sur le plan. C'est authentique. Bacalan, alors je parle même pas du lac,
du nord,
n'était pas sur le plan de la ville de Bordeaux. Donc, Et c'est vrai qu'il y a des Bordelais qui n'allaient jamais à Bacalan, comme ils n'allaient jamais sur la Bastide. La Bastide, c'était les petits Indiens avec ce nom Lormont Florac. Hein.
C'était ça, les écluses, c'était vraiment la barrière. Hein.
Mais
il y avait
changé,
la fourrière et tout à l'époque, et là, on passait pas. Enfin, les gens de Bordeaux ne passaient pas les écluses, quoi. Hein.
Je crois que c'est fini, mais malgré tout, il y a une forme d'autonomie, quoi, de vie en pas en circuit fermé, mais on pourrait s'autosuffire presque. Faudrait planter un peu et faudrait planter un peu quand même pour manger.
Oui, finalement, c'est la vie un petit peu d'un village, c'est ce que tu disais,
oui,
Stéphanie, c'est que tout le monde se connaît et voilà, on considère qu'on est bacalanais avant d'être bordelais finalement.
Tout le monde peut-être pas, moi oui.
Mais pour les anciens, pour ceux qui ont grandi là, c'est clair que après pour les nouveaux, ils peuvent pas dire. Moi, je dis pas que je suis de Bacalan, que je suis pas de Bordeaux, mais par contre, je suis conscient de la spécificité de ce quartier. Je sais qu'il y a des trucs ici que je peux pas trouver dans d'autres quartiers qui sont par ailleurs super à Bordeaux et d'autres quartiers où j'ai vécu qui sont super. Mais là, il y a un truc qui est d'un autre type, quoi. Entre la Garonne, le lac, ce matin, j'étais au parc derrière le pont d'Aquitaine, les berges de la Garonne, un truc où vous savez même pas où vous êtes, tellement c'est incroyable. Tellement il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, mais on est à Bordeaux.
Temps, ouais.
Ouais. Oui, donc finalement, on peut toujours redécouvrir un petit peu Bacalan. On se lasse jamais, finalement. On découvre tous les jours des trucs, des spots, des endroits un peu cachés.
C'est ça. Et puis, il y a plein d'assos aussi qui œuvrent dans ce sens. Il y a l'alternative urbaine qui propose des balades, justement, dans le quartier, toujours avec en s'appuyant sur des témoignages d'habitants, sur des anecdotes, vraiment. Donc, c'est hyper chouette parce que on parle du quartier, mais par ses habitants, quoi. Comme le journal, en fait. Et grâce à ces outils-là, en fait, c'est vrai que tu redécouvres toujours le quartier. Et puis, il y a toujours des choses nouvelles, en fait. Puis, le quartier change, évolue. Là, il y a Bacalan, il y a les bassins à flot, et puis bon, voilà, de nouvelles personnes.
Mais il y a un nombre de ressources dans ce quartier qui est absolument incroyable, de ressources humaines particulièrement. Mais c'est vraiment la richesse, elle est là. Et il y a plein de savoir-faire, mais je trouve que l'Open Bidouille, c'est une bonne illustration. C'est que c'est des savoir-faire, des savoir-être aussi, des gens, et qui bossent entre eux. Je trouve que tout ce qu'il y a autour du plateau, c'est une bonne illustration. Finalement, on n'a pas forcément grand-chose. Mais on met tout ça en commun et ça produit de la valeur ajoutée.
C'est vrai que c'est une particularité du quartier. Il y a une richesse associative importante, mais il y a vraiment une volonté de complémentarité, en fait. L'idée, c'est de pas travailler chacun dans son coin. C'est pas de faire choisir les habitants entre aller à l'événement du garage ou l'événement de l'amicale. L'idée, c'est d'essayer de faire des événements communs et d'offrir tout le temps quelque chose, en fait. Voilà.
Et justement, pour conclure, on a parlé d'un projet lors du premier plateau qui est le tuyau de Claveau. Donc je sais, Stéphanie, que t'es assez bien informée sur le sujet. Christophe, vous connaissez un peu, vous en avez déjà entendu parler?
Le tuyau de Claveau.
Ouais.
Oui.
Alors Stéphanie, tu peux peut-être présenter le projet à Christophe?
Oui, alors c'est... Ça part de quelque chose de très farfelu, en fait. Hein. Tu m'aides, Julien.
Ouais, je vais.
Donc en fait, à Claveau, il y a des odeurs. Des odeurs qui sont présentes et prégnantes, des odeurs un peu d'égout qui existent. Et nous, les habitants, on ne les sent plus parce qu'on est habitués, en fait. Et ça vient des tuyaux sous terre, il y a des vieilles... Enfin, ça date, quoi. Et un jour, c'est les nouveaux commanditaires.
Oui, c'est un dispositif de la Fondation de France, ouais, les nouveaux commanditaires.
Qui ont décidé d'essayer de faire quelque chose autour de ça et qui nous ont présenté un artiste, Massimo Furlan. J'abrège un peu parce que c'est très long, hein, sinon. Et qui est venu habiter quelques jours dans une échoppe de Claveau et pour prendre la température, en fait. Et puis quand il est sorti de là, il s'est dit, putain, qu'est-ce que ça pue ici? Et alors, on lui dit, ça pue quoi? Bah, excusez-moi, mais ça pue la merde, quoi. Donc, en tant qu'artiste, il a cherché comment, avec les habitants, on pourrait essayer de contrer un petit peu ce truc-là. Et on a décidé de faire des ateliers un peu histoire pour remonter un petit peu, essayer de comprendre depuis quand la tuyauterie, qu'est-ce que c'est. Voilà. Et autour de ça, on est venu sur l'idée de faire aussi un atelier pâtisserie et de mettre au point une pâtisserie qui s'appellerait le tuyau de Claveau et qui viendrait détrôner un petit peu le cannelé bordelais. Voilà, l'idée c'est ça. Donc la relation entre les odeurs, la pâtisserie, le projet, c'est un peu compliqué, mais on y travaille en tout cas.
Ouais. En fait, moi j'aime bien parler du projet à partir de avant le projet, c'est-à-dire que alors du coup, ben oui, moi je suis revenu au micro parce que je suis voisin et je suis dans le groupe des commanditaires aussi de cette histoire-là. En fait, on a choisi Massimo Furlan pour plein de raisons, mais il y avait des projets avant ce projet-là. qui nous semblait intéressant. C'est-à-dire que les nouveaux commanditaires, leur démarche, c'est de proposer un artiste pour répondre à une question ou à une problématique ou à quelque chose, à répondre à une interpellation, on va
c'est
dire.
Ça.
Et cet artiste-là avait fait un boulot dans un village du Pays Basque qui consistait un peu comme à Clavou à retourner un problème en une solution qui est appropriée de manière créative. Donc au Pays Basque, le projet s'appelle Hospitalité. Donc c'est il a eu la même démarche, il est arrivé dans le village, voilà, il est là, qu'est-ce qui vous préoccupe? Et les gens ont répondu, bah, les prix de l'immobilier, parce que voilà, c'est un peu touristique, donc c'est cher les prix de l'immobilier, parce que nos enfants ils pourront plus acheter de maison, c'est compliqué, ils sont obligés d'aller loin. Et lui il a dit ok, il n'y a pas de problème, on va faire un camp de réfugiés. On va dire qu'on va faire un camp de réfugiés. Alors ça a l'air complètement trash comme ça, mais la suite de l'histoire, qui peut ressembler là juste à un canular en fait, c'est que les habitants, ils se sont appropriés l'idée, et bon, ils n'ont pas fait un camp, mais ils se sont mis à accueillir des réfugiés, vraiment. C'était en 2015, au moment où de la guerre en Syrie, enfin quand il y avait plein de gens qui arrivaient en Europe et en Allemagne. Et donc, si on veut, la commande artistique, elle a déclenché un acte social. Et l'œuvre, dans ce projet, c'est pas une statue ou un truc livré comme ça. C'est le fait que des gens s'associent pour répondre avec quelque chose qui sert en même temps. Donc, ils ont aussi rendu compte de cette démarche-là au Pays Basque en montant une sorte de pièce de théâtre ou de pièce polyphonique avec les habitants qui expliquent comment s'est conçu leur village et comment le projet est venu bousculer ou interpeller, parce qu'il y a des gens qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, qui voulaient pas de migrants, machin. Bon, et en fait, au final, il y a quelque chose qui peut être rendu public, mais c'est une œuvre sociale, quoi. Et voilà, c'est ça qu'on recherchait. Et le tuyau de Clavaux, alors lui, il est parti de cette histoire d'odeur. Mais moi, je trouve que c'est pas le cœur du truc, et il faut pas le voir comme une stigmatisation du quartier, qui est, parce que c'est ça le truc. Enfin, ça ne fait pas plaisir, quoi, qu'on dise que ça pue dans notre quartier. Mais quelque part, c'est une manière de retourner une situation qui est réelle, quoi, et d'en faire quelque chose. Et l'idée, c'est toujours sur l'ambiguïté, c'est-à-dire de se dire le tuyau de Clavaux, mais ça existe, c'est comme le cannelé, quoi. Donc il faut arriver dans les boulangeries et se dire mais vous avez pas de tuyau de Clavaux, mais c'est bizarre, c'est bizarre.
Partir
quoi.
Partir sur la rumeur, quoi.
Partir sur une sorte de rumeur.
On
voilà.
A goûté, nous, le tuyau de Clavaux, il est super bon.
Et du coup, ce serait une sorte de le tuyau de Clavaux, ce serait une sorte de tradition, sauf qu'en réalité, il est inventé par un groupe d'habitants qui fait des ateliers cuisine. Donc c'est une pseudo-tradition, mais qui est en fait créée par les habitants d'ici pour avoir plus d'histoire à raconter, ou pour avoir une nouvelle histoire à raconter sur leur quartier.
Et donc là, ce projet, il en est où? Parce que donc c'est ce que Stéphanie, tu me disais, donc avec le Covid, effectivement, ça a été compliqué de se retrouver, commencer voilà des réunions entre habitants.
On avait bien démarré, on avait créé une petite commission qui allait aux archives régulièrement, se renseigner, faire des recherches sur tout ça. Ensuite, il y avait un deuxième groupe de dames qui se sont créées pour travailler en atelier cuisine avec le chef Frédéric Coiffé pour réfléchir à ce tuyau. La forme, le goût, voilà, la consistance. Et puis après, on faisait des réunions un peu plénières pour mettre tout ça un petit peu en place. On a eu fait des balles aussi, des balles populaires ici à la base vie, pour rendre compte un petit peu de l'avancée de ces travaux à l'ensemble des habitants. Et puis, est arrivé le Covid, hein, qui malheureusement a stoppé un peu tout ça. On a tenté de maintenir un peu des réunions en visio, mais ça marche un peu, et puis ça, voilà, ça finit par s'estomper un petit peu. Moi, j'ai un petit peu lâché prise. Il faut vraiment redémarrer. Ça a redémarré un peu la semaine dernière, il y a 15 jours, là.
Oui, c'est des échanges, mais ce qui est moteur, en fait, c'est les temps de balle. C'est ce qui fonctionne, c'est ce qui a fonctionné ici, en fait. Et ça, c'est devenu compliqué à faire. Donc, il n'y a plus que le travail cuisine et le travail... Et encore, qui a
et
été interrompu.
Cuisine, c'est compliqué.
Il a été interrompu aussi. Et donc, oui, tout ça va reprendre, et puis il faut le finir et le livrer entre guillemets, parce que la recette, elle existe toujours pas encore, ils sont en train de faire des tests.
Ouais.
et c'est pas encore fait.
Eh bien, on est très impatients de pouvoir goûter à ce tuyau de claveau. Merci beaucoup Stéphanie et Julien d'avoir participé à ce deuxième petit plateau, et Christophe qui est parti rapidement. Donc merci à l'Open Bidouille Camp de nous avoir accueillis aujourd'hui pour ces deux petits plateaux radio. Merci à Arnaud de Ricochet Sonore pour la technique, et puis nous on se retrouve sur d'autres podcasts sur Bordeaux.
Merci, bonne journée, au revoir.